Dernière partie de la grande table, Caroline Brouet.
Nous allons essayer de tenir ce débat d'idées que souhaitait votre invité Antoine Mercier avec le nôtre, Luc Van Middelaar. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes historien et philosophe. Vous êtes le conseiller du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, dont vous êtes aussi la plume, et ce depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et vous avez signé en 2012 un livre qui a remporté d'abord deux prix importants, le prix du livre européen et le prix Louis Marin de l'Académie des sciences morales et politiques, et puis qui a aussi rencontré un succès assez formidable pour un essai intitulé « Le passage à l'Europe, histoire d'un commencement », et c'était un livre édité en France chez Gallimard. Pour vous interroger à nos côtés, Luc Van Middelaar, nous avons proposé au philosophe Mathieu Pot-Bonneville de nous rejoindre autour de la table. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, juste à l'instant, l'invité du journal d'Antoine Mercier disait « c'est le chef qui est le programme ». On voit bien cette bataille aujourd'hui, en tous les cas au sein de l'UMP, mais une bataille qui est une bataille aussi de chefs au sein même de l'Europe. Nicolas Sarkozy, dans une longue tribune dans le journal Le Point, il y a maintenant quelques semaines, disait « l'absence de leadership met l'Europe en danger ». Est-ce que vous diriez, comme Jonas Haddad, c'est le chef qui doit être le programme, ou l'Europe, c'est d'abord un projet, puis on déterminera le chef ensuite?
Je crois que l'Europe, c'est d'abord un programme et un travail ensemble des pays et des institutions. Et l'Europe, ce n'est pas fait pour avoir des grands chefs, puisqu'il y a tant de divergences et d'équilibres politiques en Europe à gérer. Ça fait que parfois, c'est illisible. Mais l'illisibilité, c'est un prix qu'on paye aussi pour sauvegarder des libertés et des équilibres. C'est-à-dire, parfois, les gens demandent que l'Europe soit plus simple, plus lisible, qu'il y a un qui décide, une personne qui tranche. Mais ça voudrait dire quoi pour une union constituée de 28 démocraties qui sont tous les jours amenées de travailler ensemble? Ça ne peut que se faire sur la base de travail parfois lent, parfois ennuyeux, mais de compromis, de tisser des liens entre les personnes, y inclus entre les chefs d'ailleurs, mais aussi entre les pays et les institutions.
C'est exactement ce que fait le Conseil européen auquel vous êtes rattaché, Luc Van Middelaar, avec son président, qui n'a pas toujours été un président, puisqu'il a été nommé, ce poste a été créé le 1er janvier 2010. C'est exactement ce que fait ce Conseil européen. Et c'est vrai que souvent, vous parliez tout à l'heure de lisibilité ou d'illisibilité. On reproche à l'Europe son manque de lisibilité. Et en particulier, on ne connaît pas nos institutions. Alors j'aimerais bien, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la politique et de l'économie, qu'est-ce qui doit dominer le monde, et en particulier, qu'est-ce qui doit dominer l'Europe, que nous fassions un tout petit peu de pédagogie avec vous, puisque vous venez du Conseil européen, qui ne doit pas être confondu avec le Conseil de l'Europe, justement. Quel est le rôle de ces sommets qui réunissent les 28 chefs d'État et de gouvernement? Et quel est le rôle de ce fameux président, à la tête de ce Conseil européen, Herman Van Rompuy? Vous avez vraiment cette expérience. Est-ce que vous pouvez nous raconter de l'intérieur comment ça se passe?
Oui, bien sûr. Il faut comprendre que le Conseil européen, c'est tout d'abord une réunion, en effet, de 28 aujourd'hui chefs d'État et de gouvernement, qui chacun viennent de leur pays avec leurs préoccupations, avec leurs intérêts, leurs attentes de leur population. Donc, François Hollande vient aujourd'hui pour la France, etc. Et le Conseil européen, dans son ensemble, il est là pour donner d'abord les grandes impulsions, les grandes lignes de la politique européenne sur tous les sujets. Et puis, il est là aussi quand ça devient très compliqué, quand il y a des moments de crise à gérer.
Par exemple, sur l'Ukraine.
Sur l'Ukraine, par exemple, là, quand c'était les moments les plus chauds, au mois de février-mars, on a vu qu'il y a eu deux sommets extraordinaires, un sommet extraordinaire et un autre sommet, pour que les chefs puissent parler du rapport de l'Union européenne à la Russie. On a aussi vu, pendant la crise de l'euro, où il y a eu beaucoup de sommets de vérité, comme on disait, il en fallait toujours un supplémentaire pour sauver l'euro. Alors là, c'était les grands enjeux qui revenaient à l'ensemble des chefs d'État et des gouvernements de traiter. Mais le Conseil européen n'est pas là pour gérer le quotidien ni pour proposer des lois, etc. Donc ça serait plutôt une tâche qui incombe à la Commission en l'occurrence. Donc, le Conseil européen, en termes français, on pourrait dire que c'est un peu un chef d'État collectif. C'est les 28 chefs ensemble qui sont une espèce de chef d'État
et
européen.
Et du coup, Herman Van Rompuy fait quoi par rapport à cela?
Lui, là-dedans, il essaye de créer des rapports de confiance entre tous ceux qui viennent. Entre, vous en avez parlé tout à l'heure dans les nouvelles, entre David Cameron, Angela Merkel, François Hollande et les 25 autres, que tous s'entendent, qu'on puisse avancer un peu dans la même direction, surtout en des temps difficiles.
Alors on voit bien tout ce dispositif effectivement institutionnel compliqué par la force des choses, puisque c'est à l'origine de la création de l'Europe qu'on a dû créer cette commission extérieure à la représentation politique pour justement incarner un intérêt collectif qui n'est pas si évident à dégager. Mais l'impression qu'on a quand même de l'extérieur, c'est que bon, ça marche pas très bien, mais que finalement, de crise en crise, ça continue à avancer malgré tout, y compris l'intégration européenne. Voilà. Simplement, pourquoi pas, on pourrait l'accepter. Mais ce dont on a aussi l'impression, et ce qui est peut-être plus embêtant, c'est que ça avance pas trop mal, mais toujours dans le même sens, sans qu'il y ait véritablement une orientation politique, un contrôle politique qui soit donné à cette Europe. En gros, ça avance toujours vers, en gros, des options libérales. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Luc, est-ce qu'il y a une chose?
Ça, c'est vraiment difficile à dire. Je crois que s'il y a une direction d'ensemble, en effet, c'est de faire plus ensemble au fur et à mesure qu'on progresse dans le temps. Et ça, c'est vrai que c'est inscrit dans l'ADN du projet européen. On a commencé avec charbon et acier, puis les produits industriels, agricoles, etc. Et aujourd'hui, c'est les services financiers et autres. Et c'est vrai aussi que dans l'Europe, il y a une logique d'ouverture. C'est-à-dire l'idée d'abolir les frontières, de faire de la sorte que, dans un premier temps, des marchandises, mais ensuite des personnes, etc., puissent voyager, être transportées dans cet espace commun de tous ces pays membres, et qu'on n'a pas fait beaucoup d'attention pendant le travail qui a été fait. Un autre aspect que doit peut-être aussi apporter un ordre politique, c'est d'être un lieu de protection. Donc, on a surtout insisté sur le marché, créer un espace d'opportunité, de chance, et très peu sur le besoin qu'ont les gens, bien sûr, aussi, en même temps, d'un lieu de protection où ils peuvent être à l'abri, où ils peuvent nouer un sentiment d'appartenance. Ça, c'était un travail qui était plutôt laissé aux États. C'est aux États, par exemple, de procurer l'État-providence, la sécurité sociale, et pas à l'Europe. Tandis que c'était à l'Europe de promouvoir l'ouverture. Donc il y avait une espèce de division de travail historique entre les instances européennes et les États nationaux. Et on voit, justement, avec la crise, depuis la crise financière, que cet équilibre historique est vraiment sous pression et que, du coup, les gens veulent aller dans les deux sens. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui ont de grandes attentes de l'Europe, qui demandent plus d'Europe, que l'Europe protège ou que l'Europe s'occupe aussi du social, par exemple, ou du chômage, et à juste titre. Mais en même temps, on voit d'autres gens, parfois dans d'autres pays, parfois dans les mêmes, et parfois c'est les mêmes personnes qui, en fonction du sujet, veulent plus d'Europe et moins d'Europe. Donc il y a vraiment des attentes contraires aujourd'hui qui rendent plus compliquée, en effet, la lisibilité aussi politique de la situation et, par exemple, du vote des dernières élections européennes.
Oui, c'est ce besoin de protection qui s'est exprimé pour vous dans les urnes. En France, avec la victoire du Front National et de l'abstention, bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, en l'occurrence. En Grande-Bretagne, avec celle d'un parti souverainiste, et dans plusieurs autres pays, avec des partis extrémistes. C'est le besoin de protection et la peur de l'ouverture, la peur de se dissoudre dans la mondialisation.
Je crois que c'est vraiment un élément central qui s'est exprimé dans ces élections, ce besoin de protection. Protection économique, mais aussi peut-être protection culturelle, protection des identités. Et on connaît tous les histoires de propositions législatives ridicules qui attaquent les concombres
incurvés.
Incurvés, voilà, merci de m'aider, Antoine, merci.
Bravo.
L'huile d'olive interdite dans les restaurants ou des choses comme ça, mais qui font intrusion sur la vie quotidienne et ça dont les gens n'ont pas forcément besoin. Tandis que, par ailleurs, ils demandent plus de protection apportée par rapport aux grandes menaces qui viennent de l'extérieur. Parce qu'il y a bien des sujets, mettons la mondialisation, le réchauffement climatique, que tout un chacun peut comprendre facilement qu'un seul pays ne peut apporter pas grand-chose par rapport à de tels défis ou de tels problèmes mondiaux et que là, il vaut franchement mieux travailler ensemble. Et donc, c'est tout cet équilibre entre plus d'ambition par rapport à certains sujets et peut-être un peu plus de retenue et un peu plus de respect pour des lieux de protection par rapport à d'autres sujets.
Mathieu Pot-Bonneville.
Et moi, je voudrais venir un instant sur le livre, le passage à l'Europe, parce que je voudrais dire que je trouve que c'est un très grand livre, que c'est un livre dont l'une des qualités, d'abord, il faut le dire, c'est qu'il est extrêmement agréable à lire, ce qui relève du tour de force et ce qui, à mon avis, relève de l'intention même du livre, c'est-à-dire de donner accès à l'Europe en commençant par supprimer les acronymes, les initiales et toutes ces choses. Donc c'est un livre qu'on lit avec plaisir, on s'y amuse même. J'ai découvert dans le chapitre sur l'hubris de Jacques Delors qu'il y avait eu un moment Icare de Jacques Delors où il avait cru pouvoir s'envoler jusqu'à voir ses ailes fondre au soleil. C'est assez amusant. C'est un beau livre de philosophie en fait. Vous disiez que vous étiez à la fois historien et philosophe, et le propos philosophique du livre me semble tout à fait fort pour plusieurs raisons. D'abord parce que, au fond, les philosophes ont beaucoup interrogé politiquement la genèse idéale des États. Ils se sont beaucoup replacés dans un état de nature où on crée à partir de rien une forme politique, mais beaucoup plus rarement les genèses réelles. Et vous prenez l'Europe comme un matériau où on voit effectivement une institution politique se construire, comment elle se construit. Bon, ça, c'est une première chose qui est très forte dans le livre. La deuxième chose, c'est que vous montrez finalement que pour comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe, ou la manière dont l'Europe passe, il faut commencer par se débarrasser de discours ou de grilles de lecture qui sont toujours à la fois une description et une prescription. C'est-à-dire, les mots même, hein, intégration européenne, construction européenne, sont des mots qui disent à la fois, voilà ce qui est en train de se passer, puis voilà la manière dont les choses doivent aller, la manière dont les choses doivent être orientées. Et au fond, peut-être faut-il renoncer à parler, à construire l'Europe pour comprendre comment elle se fait. Bon. Et de ce point de vue-là, c'est une chose très, très forte à laquelle j'étais très sensible, vous réintroduisez un auteur injustement décrié, qui est Machiavel. C'est-à-dire que vous redonnez dans cette histoire européenne à la contingence, au hasard, hein, vous employez même dame fortune, comme Machiavel, ce qu'on ne fait plus beaucoup dans les études politiques aujourd'hui, à la contingence et au hasard, leur force. Ça veut dire que, et vous allez au fond jusqu'à dire, pour revenir à l'actualité, que les crises sont des moments décisifs pour que prenne cette construction, enfin cette unité européenne. Donc, je voudrais peut-être revenir sur ce rôle fondamental que vous donnez aux crises.
Luc Van Middelaar.
Oui, merci de ces remarques qui me font beaucoup plaisir parce que c'est en effet intentionnel. J'ai voulu écrire un livre bien écrit parce qu'en effet, la force des mots est telle que soit ils peuvent cacher des vérités, soit ils peuvent nous mettre sur les mauvais rails. Et pour un sujet comme l'Europe, c'est évident que les discours produits souvent à Bruxelles n'invitent pas forcément à l'intérêt. Par rapport à la question de la contingence ou des événements, des crises, pour moi, c'est vraiment fondamental. Parce que la politique, c'est beaucoup de choses. Et bien sûr, il faut réfléchir sur qu'est-ce qu'il y a le mieux à faire, sur la justice, etc. Mais c'est aussi une action qui se déroule vraiment dans le temps. C'est-à-dire, il y a des choses qui se passent. Une crise qui éclate, ou un avion qui tombe, et il y a un moment de réaction qui s'impose pour les acteurs politiques. Et dans l'histoire européenne, et en effet, j'évite le mot de construction, c'est pour ça aussi que je parle de passage à l'Europe, pour mettre l'accent sur cet aspect temporel, il y a beaucoup de moments de crise avec des issues imprévues. Il y a beaucoup de moments de liberté, au fond, où l'histoire a pris un tour, mais ça aurait pu se passer différemment. C'est vrai pour le début, mais c'est vrai aussi pour la chute du mur de Berlin en 89, qui est un moment, un nœud central pour tout ce qui s'est passé depuis, y inclus pour la naissance de l'euro. Et pour moi, c'est fondamental de creuser ces quelques moments, parce que là, on peut apprendre beaucoup plus sur la politique qu'en lisant les traités, etc.
Alors, effectivement, on ne peut pas parler d'action sans parler d'acteurs. Et peut-être revenir un instant sur les acteurs que vous mettez en scène. Au début du livre, vous expliquez qu'il y a au fond trois discours sur l'Europe. Il y a le discours de l'Europe des bureaux, et le discours de l'Europe des États, et le discours de l'Europe des citoyens. Vous dites, le discours de l'Europe des bureaux, il est scientifiquement armé par les sociologues, par les économistes. Le discours sur l'Europe des États, il est armé par les sciences politiques. Et le discours sur l'Europe des citoyens, il n'est pas armé scientifiquement. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de science qui l'adosse, auquel il s'adosse. Et je me suis dit, bah, peut-être que c'est votre intention de combler cette absence-là. Et en même temps, dans l'histoire que vous racontez, dans la manière dont vous la racontez, les opinions publiques européennes ne sont pas très présentes. Vous faites une histoire, comme disait Machiavel, des grands, des princes. Mais les opinions publiques, elles sont plutôt en position de recevoir, ou de ne pas recevoir d'ailleurs, ce qui se passe du côté de l'Europe, plutôt qu'en position active. Est-ce qu'on peut vraiment décrire le passage à l'Europe sans tenir compte, ou en mettant à la marge, en laissant à la marge les opinions publiques européennes?
C'est ce qui voudrait dire qu'il y a plusieurs niveaux de crise, hein, Luc Van Middeleur. Une crise de l'euro, une crise de l'Ukraine, une crise au moment de la chute du mur de Berlin parce qu'il a fallu reconstruire quelque chose. Et puis qu'il y a peut-être une crise bien plus profonde, plus latente, qui n'est donc plus une crise, qui est un déficit démocratique de l'Europe. C'est en tous les cas ce que certains pensent. Luc Van Middeleur.
Oui, mais je pense qu'en effet, là, on vit un basculement par rapport à cette problématique. Et que pendant très longtemps, l'Europe a été faite, en effet, par les élites, par les diplomates, par les ministres des Affaires étrangères, etc. Et c'était construit d'en haut, en quelque sorte. Mais avec les effets de cette construction aujourd'hui, avec une Europe qui, de plus en plus, touche les gens, tous les citoyens, dans leur vie quotidienne.
Ça, c'est vraiment la grande évolution. Là, c'est l'historien presque du temps présent qui parle en vous. Mais pour vous, la grande évolution des, disons, 50 ou 30 dernières années, c'est que c'était des groupes, l'Europe, pour les citoyens, et c'est devenu quelque chose qui est de l'ordre de notre vie quotidienne.
Pour moi, c'est une expérience radicalement nouvelle. L'Europe, il y a 20 ans, en effet, c'était le grand marché pour les grandes entreprises, c'était pour les agriculteurs, peut-être les premiers étudiants Erasmus, etc. Et puis un idéal un peu lointain pour la plupart des gens. Tandis qu'aujourd'hui, à travers l'euro et la libre circulation des personnes, ça touche la vie de chacun. Et pour moi, c'est les moments de la crise de l'euro qui ont été le plus forts à cet égard. Parce que il n'y avait qu'à ouvrir les journaux et les titres. On s'intéressait chaque jour à un autre pays, quel serait le résultat des élections en Italie, en Grèce, en Slovaquie. Tout ça, ça devenait des événements dans un espace politique désormais commun. On s'intéresse aujourd'hui à la politique allemande, non pas par curiosité touristique, mais parce que on sait que l'issue du scrutin allemand, ça va avoir un impact sur le cours de la chose européenne.
Et donc, l'aspect démocratique ou non démocratique, où sont les peuples d'Europe, la question de Mathieu?
Est vraiment, aujourd'hui, mis plus en valeur et presque radicalisé, mais on est un peu pris entre les deux tenants du problème. C'est-à-dire, on se rend compte que la politique européenne imprègne de plus en plus la politique nationale. Et ça, c'est aussi une des thèses fondamentales de mon livre, que l'Europe, ça ne se joue pas uniquement sur les terrains bruxellois, mais c'est vraiment quelque chose qui rassemble tous nos pays. Et donc, ce qui se passe à l'Assemblée nationale à Paris, ça relève de la politique européenne, tout ce qui se passe à l'hémicycle à Strasbourg. Et donc, les gens ne savent plus où est-ce qu'ils doivent regarder pour avoir une influence sur la politique européenne. Mais La vérité, c'est qu'ils doivent regarder des deux côtés. Ils doivent regarder à ce qui se passe à Paris, dans le cas des Français, mais ils doivent aussi regarder de ce qui se passe à Strasbourg et à Bruxelles dans leur capacité de citoyens européens. Et c'est ça qui est difficile, mais encore une fois, c'est une complexité qu'on ne va pas éliminer parce qu'elle est justement constitutive pour ce qu'est l'Europe. L'Europe, c'est à la fois une unité. Donc, mettons un grand continent, une culture, une histoire de ce continent, d'un côté, et d'autre côté, cette diversité incroyable de petits États-nations, relativement parlant, qui se trouvent ici tous ensemble. Et cette diversité, elle est constitutive. J'aime bien citer Jacques Le Goff à cet égard, le grand historien, qui a dit un jour que, même au Moyen-Âge déjà, l'Europe est née comme une fédération de royaumes. C'est-à-dire, ça a toujours été deux versants de la forme politique qu'on a trouvée en Europe. L'idée de partager cet espace, cette civilisation d'un côté, entre Européens, et d'autre côté, la cristallisation de cet espace en des espaces nationaux. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut...
C'est né il y a très longtemps et ça, ce n'est pas encore résolu.
Il ne faut pas
en
avoir honte.
Il ne faut pas avoir honte
de cette tension, parce que c'est nous.
En revanche, quand même, il y a ce problème de la démocratie est quand même ouvert. Et moi, je suis pas complètement convaincu de ce que vous dites sur la crise en tant que possibilité de trouver une autre solution, de trouver une liberté dans la crise. Parce que si la liberté est liée à la crise, ou bien on n'est pas libre, ou bien on est en crise. Si c'est ça que l'Europe propose comme alternative, ça pose un problème.
Luc Van Middelaar.
Ce que je voulais dire, c'est qu'un moment de crise fait remonter à la surface la politique qui est très souvent sous-jacente dans ce que fait l'Europe. L'Europe a été revêtue comme une monnaie, un marché, et on ne sent plus vraiment les choix politiques qui précèdent. Et pendant les moments de crise, que ce soit la crise ukrainienne, où on parle de sanctions, ou que ce soit la crise de l'euro, où on parle de solidarité, etc., on voit ces motifs revenir à la surface. Et donc aussi, non pas uniquement le besoin, la nécessité, mais on voit aussi à l'œuvre les choix politiques qui se font alors, dans plusieurs enceintes, dont la réunion des chefs d'État et du gouvernement dont on a parlé, et d'autres, mais où, prenons encore une fois la crise de la zone euro, vraiment, autour d'une table à Bruxelles, ici on est autour d'une petite table avec 4-5 personnes, mais là ils sont 28-30, mais c'est aussi une table ovale.
Et nous, c'est la grande table. Hein, donc
c'est, oui, c'est une très grande table.
On n'a pas de concurrence.
La table en elle-même est petite et nous sommes que 4, il a raison.
Là, c'est un T minuscule, mais c'est quand même une belle table, je peux vous dire. Et où les dirigeants eux-mêmes ont découvert cette interdépendance économique et politique qu'ils ignoraient en partie. Et ça a été une découverte douloureuse, bien sûr, pour les opinions publiques, mais aussi pour les dirigeants eux-mêmes. Ils ont mis du temps à digérer ça. Et c'est ce qu'on est toujours en train de faire, en quelque sorte.
Mathieu.
Oui, mais alors on est dans une situation assez, assez paradoxale. Parce que ce que vous décrivez, c'est au fond, d'un côté, et c'est votre analyse du Conseil et en tant que club, les gouvernants ont inscrit l'interdépendance sur leur agenda politique. D'un autre côté, les gouvernés, les opinions publiques, savent aussi que l'interdépendance est là, que ce qui se passe en Allemagne nous concerne, que ce qui se passe en Grèce nous concerne, etc. Et pour autant, les gouvernants continuent à s'adresser aux gouvernés comme si les enjeux nationaux étaient au mieux déconnectés de la question européenne, au pire antagoniques, opposés à toute considération européenne. Donc c'est très curieux ce moment où des deux côtés de l'isoloir, disons, chacun est convaincu que l'Europe est là, mais on continue, dans le rapport des uns aux autres, à faire comme si ça n'était pas le cas ou ça pouvait ne plus être le cas.
C'est vrai que cette tension entre interdépendance et démocratie, ça c'est aujourd'hui le cœur du problème. Comment est-ce qu'on peut gérer démocratiquement cette interdépendance en tenant compte à la fois des intérêts de l'ensemble, de l'Union, et de chacun des des partis. Et ça relève à la fois peut-être un petit peu d'amélioration institutionnelle, même s'il ne faut pas en attendre des miracles, mais aussi, comme vous semblez suggérer, de la pédagogie politique et d'une prise en compte réelle par les politiciens des deux côtés de l'isoloir, mais à commencer dans les capitales, par ce que ça représente d'être membre d'une union. Et au bout de 60 ans, ils auraient pu savoir.
Effectivement, il faut faire un peu de pédagogie politique. Dites-vous, le mot politique, Luc Van Middelaar, revient beaucoup dans votre bouche et ce n'est que légitime vu le poste que vous occupez aujourd'hui. Mais bien plus que cela, vous avez également signé une tribune le 25 mai dernier, parue dans le journal français Le Monde. Oui, l'Europe est politique, dites-vous. L'Union n'est pas seulement pilotée par l'économie, mais aussi par des gouvernements. C'est aussi ce que vous venez nous dire. L'Europe est politique, la clé réside dans le retour du politique. Retour du politique, ça n'est pas anodin comme terme, le retour. C'est qu'il avait disparu, c'est qu'en tout cas, on entend de partout et depuis longtemps que l'Europe incarne la défaite du politique au profit de l'économique. Alors est-ce que c'est belle parole ou est-ce que aujourd'hui, réellement, vous dites, même des choix économiques, n'en déplaise à certains, sont des choix politiques, doivent l'être comme tels et doivent être assumés comme tels.
Oui, bien sûr, ces choix doivent être assumés comme tels. Mais quand je parlerai d'une défaite de la politique, pour moi, ce n'est pas tant par rapport à l'économie, mais aussi par rapport à la profonde volonté de compromis ou de nier les conflits entre États. Et ça, il faut quand même voir aussi dans la longue histoire, c'est que l'Europe est née, c'est pas un hasard, après deux guerres mondiales, c'est-à-dire après une période de conflits violents, sanglants, entre pays. Donc, inscrit depuis toujours dans l'Union européenne, est une très forte volonté de dépolitiser les choses, de dédramatiser, de ne pas avoir un jeu avec des vainqueurs et des perdants, mais d'avoir une conclusion de la réunion après la grande table où tout un chacun peut
très
tenir...
très grande table.
Très grande table. T'es minuscule. Où tout un chacun peut faire sa conférence de presse et dire que voilà, ce qu'on a décidé, c'est bien pour notre pays et pour l'Europe. Donc, et ça, c'est vraiment très difficile de renverser cette logique-là. Qu'on peut appeler dépolitisation, compromis, dédramatisation, par rapport à une autre attente qui est de rendre plus visibles les choix politiques, économiques et autres. Et je crois que là, encore une fois, c'est vraiment l'un des nœuds aujourd'hui qui est peut-être difficile à gérer, mais où on ne peut plus vraiment échapper à poser la question.
Sortie des institutions et même de cette politique au quotidien, vous avez les mains dans le cambouis, vous, Luc Van Middelaar. Dernière question qui va vous paraître énorme, il se trouve que vous êtes de nationalité hollandaise, que vous travaillez à Bruxelles et que vous vous exprimez, là on l'entend bien, dans un français absolument parfait. Est-ce que c'est ça, être européen? Qu'est-ce que c'est être européen pour vous, personnellement?
Oui, pour moi c'est ça. Pour moi c'est aussi... vivre entre différents pays, faire un va-et-vient entre des traditions linguistiques, culturelles, entre la France, un pays où j'ai vécu aussi et que j'aime beaucoup, et qui me manque aujourd'hui en Europe d'une certaine façon, et où j'ai envie que cette France-là, que j'aime beaucoup, revienne sur la scène européenne en belle force, comme elle sait le faire.
France Culture, la grande table.
Que l'Europe, que la France revienne sur le devant de la scène comme elle sait le faire. D'une certaine façon, on a là une définition de la puissance, qu'elle retrouve sa puissance d'antan. L'Europe ou le dilemme de la puissance, c'est justement le titre de la chronique de Raphaël Bourgois aujourd'hui. Bonjour Raphaël.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Oui, j'ai déjà évoqué ici le dernier numéro de la revue Études et j'essaie en général de varier les plaisirs. Mais là, on ne pouvait pas passer à côté d'un article publié dans ce numéro de juin qui intéressera très certainement Luc Van Middelaar. Pas seulement parce parce qu'il est signé d'un de vos compatriotes, le néerlandais Stefan Wenders, ni même parce que l'auteur a été directeur du laboratoire d'idées, l'Institut Thomas More, proche de votre sensibilité libérale, mais parce que c'est un article optimiste qui ouvre des perspectives à l'Europe. L'Europe, cette pluralité de voix propres, polyphonie, qui ne demande qu'à être accordée, nous dit Wenders, pour qui cet objectif ne prête pas à discussion. L'échec par le passé des grands projets unificateurs, de Philippe II à Guillaume II en passant par Napoléon, a montré qu'il fallait, pour y parvenir, un projet endogène qui ne soit pas perçu comme imposé de l'extérieur. Apporter une réponse au problème de la puissance, pas la puissance internationale, mais plutôt celle qu'exercent les détenteurs du pouvoir sur la nature et sur les hommes, constituerait le moteur et la raison d'être de l'Europe, une sorte de destinée manifeste pour reprendre ce concept qui a servi de ciment à la constitution des États-Unis d'Amérique, et on verra que la dimension religieuse est d'ailleurs présente puisque Wenders fait référence dans son article au philosophe et théologien allemand Romano Guardini, mort en 1968. Dans un discours intitulé « L'Europe, réalité et mission » prononcé en 1962 pour la réception du prix Erasme, Guardini se demandait ainsi où trouver la signification particulière du continent, ni dans son industrie, ni dans sa population, ni même dans sa culture, mais bien dans une sensibilité particulière aux défis que pose l'exercice de la puissance. Il développe l'idée selon laquelle, au cours de son histoire, l'Europe, berceau du développement des sciences et des techniques, s'est peu à peu éloignée de la nature au profit de la culture, à tel point que l'homme est arrivé à un stade où il est capable de se mettre en danger lui-même. Guardini cite pêle-mêle la bombe atomique, la propagande et la publicité, une montée en puissance qui s'exerce donc sur les corps et les esprits et qui éloigne peu à peu les lieux de pouvoir de toute forme de responsabilité. L'Europe, théâtre de guerre qui lui ont fait perdre ses illusions, coupable vis-à-vis de l'humanité, serait donc soumise plus que d'autres au dilemme de la puissance. Elle doit être une disposition d'esprit, une puissance spirituelle agissante, un service au monde qui remet l'homme au cœur de ses préoccupations. À aucun moment, le théologien ne prononce le mot de christianisme, mais on l'entend, tout son raisonnement est pétri de cette influence. Lorsqu'on pose la question de la puissance, c'est tout le temps pour évoquer le poids économique, diplomatique, culturel de l'Europe sur la scène internationale. L'intérêt de l'article de Stefan Wenders et de la référence à Romano Guardini, c'est d'en proposer une autre définition qui fait programme. Il emprunte de réflexion chrétienne, je rappelle qu'on trouve l'article dans la revue jésuite Études. La proposition ne se condamne pas à sa dimension religieuse, elle offre à l'Europe une destinée manifeste, donc mettre en œuvre une puissance qui se contrôle tellement bien qu'elle est prête à prendre ses distances avec elle-même, un type de pouvoir qui serait au service, une puissance qui serait marquée par l'humilité.
Une humble puissance, Luc Van Middelaar. Une réaction à cette chronique?
Je crois que c'est très important que l'Europe s'inscrive à nouveau dans la durée, et il ne faut pas faire comme si l'Europe est née après 45, mais vraiment que aussi ce que aujourd'hui politiquement font les institutions à cet égard prend en considération tout ce qui nous précède de bien plus longuement.
Et ça, Jacques Le Goff,
par exemple. Et je vais pas rallumer les discussions sur le christianisme à cet égard, mais je crois que c'est une question de fond qui sera difficile d'échapper, au moins dans une perspective historique.
Merci beaucoup, Luc Van Middelaar, d'être venu dans cette petite grande table. Pour prolonger cette discussion, mais je renvoie les auditeurs à votre essai paru en 2012, « Le passage à l'Europe, histoire d'un commencement » paru aux éditions Gallimard. Merci beaucoup à la technique, c'était Élise Leu aujourd'hui. Cette émission est à suivre, à retrouver sur Twitter, sur Facebook, à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr.